C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Okay, en studio, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Plaisir.
Écoutez, d'abord et avant tout, je vous avez fait une bonne campagne, disons ça comme ça. Il y a des observateurs qui disent que vous avez été excellent dans les débats. Il y a un sondage léger qui disait que la semaine dernière, vous l'aviez gagné. N'en demeure pas moins que la question de la survie du PQ se pose peut-être moins, mais elle est encore bien vivante. Écoutez, qu'est-ce que vous retenez jusqu'à maintenant de votre campagne?
Qu'on est la seule campagne qui monte, puis qu'on continue de monter parce que les gens apprécient une campagne qui est authentique, qui est claire et qui est constructive également. C'est-à-dire que moi, je voulais mener une campagne sur la base des idées en m'adressant à l'intelligence des gens. Les gens apprécient ça, puis on continue de monter. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous attend le 3 octobre, mais je pense que c'est très positif en date d'aujourd'hui.
L'éjection de votre opposante solidaire dans votre circonscription de Camille Lorrain, Marie-Ève Rancourt, là, pour l'affaire du dépliant subtilisé. Écoutez, combien de lampions vous avez allumé pour que ça se produise? Non, là, vous vous retenez pour pas rire, là, je le dis aux gens.
Mais je me retiens parce que...
C'est un miracle pour vous.
Je me retiens parce que c'est drôle comme façon de l'apporter, mais c'est pas drôle comme moment, puis c'est malheureux.
Non, je comprends.
Je pense qu'on doit tous garder une réserve dans le sens que... Une fois que le geste a été posé, puis je ne sais pas pourquoi puis dans quelles circonstances, oui, ça a de l'impact dans Camille Lorrain, mais je vais quand même garder une réserve parce que c'est malheureux. Puis, quel impact ça va avoir dans le comté? Je pense que ce que je dois faire, c'est continuer à mener ma campagne le mieux que je peux jusqu'au 3 octobre. Mmh. Les électeurs vont décider, mais... Faut se garder une petite.
OK, je veux qu'on parle d'indépendance. On va écouter votre mot de la fin lors du premier débat des chefs à TVA.
L'avenir du Québec est de devenir un pays et ainsi donner un sens à l'œuvre des patriotes, celle de René Lévesque, car nous méritons à l'échelle de l'histoire d'être un peuple normal qui décide par lui-même. Il y a un seul parti qui veut travailler de toutes ses forces pour l'indépendance.
Pourquoi c'est nécessaire pour vous, l'indépendance? Je veux dire, le Canada, c'est un bon niveau de vie. Les Québécois sont pas emprisonnés dans ce pays-là. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est une idée du 21e siècle pour vous?
À deux niveaux. La première fondamentale, c'est qu'on est toujours mieux de décider par soi-même. Et il y a vraiment un avantage à rayonner à l'international, exister, être une démocratie normale. Il y a aussi une question de justice à travers le temps.
Mais on est dans une démocratie normale.
Pas tant. Parce qu'il y a un gouvernement de trop, il y a un palier de gouvernement où on envoie nos impôts, mais les décisions ne sont pas tout le temps prises en fonction de nos intérêts. Moi je ne comprends pas, je l'ai
Donnez-moi un exemple de décision qui n'est pas prise dans les intérêts des Québécois.
2 milliards et plus de nos impôts québécois transitent par Ottawa, ils sont versés en subvention et en cadeau à l'industrie pétrolière, qui sont des multinationales sans scrupules. Est-ce qu'on aurait fait ça comme choix avec nos impôts? Non, on l'aurait mis dans des entreprises d'avenir québécoises qui nous permettent de faire la transition vers une nouvelle économie verte.
Ou pas.
En date d'aujourd'hui, fort probablement. Mais c'est vrai ou pas.
Non, mais je veux dire, au Québec, on pourrait avoir, dans un Québec indépendant, on pourrait avoir un gouvernement comme la CAQ
qui
n'est pas très, très vert.
Tout est possible, mais je crois vraiment qu'on aurait fait quelque chose de mieux avec ce 2 milliards-là. De la même manière que lorsqu'il manque 6 milliards en santé, puis on le quémande à Ottawa, 4 fois, je pense, que la CAQ a demandé, puis qu'on passe tout notre temps à quémander pour... Au final, obtenir quoi? Pas grand-chose, sauf une bonne part de mépris. Je fais juste rêver à mieux pour les prochaines générations, sortir également d'une forme d'insécurité linguistique et culturelle qu'on n'aura pas le jour où on sera un pays où c'est très clair que la langue commune est le français et qu'on a une culture qui nous est propre.
Vous avez évoqué des milliards de dollars, bon, parfait, en subvention au gaz et au pétrole canadien. La péréquation dont bénéficie le Québec en 2022-2023, c'est combien?
C'est 13 milliards. Il y a eu une autre année à 11 milliards, si je me souviens bien. Le calcul de la péréquation, il faut faire attention parce que c'est un seul élément de l'équation. Premièrement, le gouvernement du Canada s'est endetté, mais de manière incroyable. Donc,
et on va, si on devenait indépendant, M. Saint-Pierre Plamondon, on assumerait cette part de la dette-là.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on était indépendant et on voulait s'auto-verser de la péréquation en s'endettant, c'est pas de la création de richesse, cela, là. C'est juste de la dette.
Est-ce qu'on fait l'indépendance pour des milliards qu'on va sauver?
C'est plus fondamental que ça. Moi, je pense qu'on va sauver des milliards. On l'a calculé, là, le dédoublement. On va sortir notre budget de l'an 1. On est en train de faire des ajustements en raison de l'inflation, mais on a calculé la valeur du dédoublement. C'est à peu près 5,1 milliards de dollars qu'on va économiser en n'ayant pas deux ministères de chaque chose. Et c'est sans compter tous les dossiers qui n'avancent pas parce que un ministère dit « Non, non, c'est l'autre palier de gouvernement » puis il se renvoie la balle, comme par exemple dans les violences par arme à feu. On aura perdu un temps fou à dire « c'est Justin Trudeau, non, c'est François Legault », puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui avançait, avec des réelles conséquences. Donc, c'est pas qu'une question d'argent, mais oui, il y a des économies, il y a des décisions. Ce qui est le moins mentionné sur le plan financier, c'est le fait que quand tu as ta propre stratégie économique, ta propre représentation commerciale à l'étranger, tu as une marque de commerce, tu as la capacité de mettre en valeur tes entreprises. Ça a une valeur économique, ça aussi. Ça permet de rayonner.
OK, on va vous écouter encore une fois en débat sur l'inflation et le pouvoir d'achat.
Écoutez, comme je vous disais tantôt, on a pris une approche très simple au Parti québécois. Il y a un surplus de 6 milliards générés par l'inflation dans les coffres de l'État. Pourquoi on ne le remet pas aux gens qui en ont besoin?
Qui sont les gens qui en ont besoin?
On a établi les gens qui gagnent entre 0 et 80 000. Évidemment, il y aura toujours un argument que ça aurait pu être 90 000 ou 70 000. Mais on est contre, puis on est le seul parti à dire on devrait pas, avec les fonds publics, faire de cadeaux à des gens qui ont amplement, ont pas de difficulté à rejoindre les deux bouts. Et ça donne quand même des montants intéressants à court terme, mais sans baisser les taxes, sans baisser les impôts, parce que si on fait ça, on attaque notre capacité à donner des services publics. Et imaginez dans le cas d'une récession où les revenus sont moindres, puis qu'on s'est coupé de revenus pour des cadeaux électoralistes, mais ça va être un autre cycle de récession. Pas de récession, d'austérité. C'est un aller simple vers l'austérité dans les services publics comme la santé et l'éducation.
Avant l'élection, le gouvernement de M. Legault a annoncé l'envoi de chèques de 500 $, les fameux 500 $, à 6 millions de Québécois. Vous trouvez que c'est trop de Québécois qui ont reçu ces chèques-là?
Oui, nous, on a proposé à l'époque de moduler, faut pas que je me trompe de chiffre, là, à 70 000 jusqu'à 75 ou 70 000, justement dans la même philosophie que ce qu'on propose aux élections, à savoir s'il y a des fonds publics qui sont utilisés, ça devrait être pour aider ceux qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts dans un contexte où les inégalités sociales sont quand même en augmentation au cours des dernières décennies.
Les Québécois sont très imposés, très taxés aussi. Est-ce que vous estimez que les Québécois sont trop taxés, trop imposés?
Non. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vécu au Danemark, en Suède, en Norvège, en Belgique, mais c'est parce qu'on a souvent comme comparable les États-Unis. Mais quand on se compare à plusieurs pays de l'OCDE, en Europe notamment, c'est un niveau d'imposition qui est très similaire. Je pense qu'on peut faire de meilleures choses avec les fonds publics en termes de résultats, mais le fait de se donner une assiette fiscale pour donner des services à des gens qui autrement ne les obtiendraient pas, moi, je pense que c'est un principe quand même important qui est fondateur de notre paix sociale au Québec, une paix sociale qui n'existe pas dans certains endroits.
C'est quoi le lien entre les impôts, les taxes et la paix sociale pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
La pauvreté, les inégalités sociales génèrent des problèmes sociaux. Et les sociétés, je peux vous parler du Danemark, j'y ai vécu un an, mais les sociétés qui ont moins d'inégalités sociales, bien, ils ont plus de gens en santé, ils ont plus de bonheur, ils ont moins de violence, ils ont moins de criminalité. Donc, il faut garder ça en tête également. Je pense que la majorité des Québécois sont prêts à payer leurs taxes puis leurs impôts. Mais ce qu'ils n'acceptent pas à juste titre...
Mais je vous interromps juste là-dessus une seconde. Quand on voit, il y a eu une sorte de surenchère chez les caquistes, chez les libéraux aussi, de baisse de taxes, baisse d'impôts, ça semble être assez populaire. Pas grand monde qui refuse ça.
Je suis en désaccord. Puis pourtant, on offre 1 200 $ pour ceux qui gagnent entre 0 et 50 000 d'ici la fin de l'année, puis 750 pour ceux qui gagnent entre 50 000 et 80 000. Mais hypothéquer notre capacité à donner des services publics alors que nos écoles sont vétustes, les professeurs ont des classes bondées, dans le système de santé, les gens quittent le système parce que les conditions de travail sont pas bonnes. Puis là, notre idée, ça va être couper le financement davantage. Je ne comprends pas et je n'accepte pas que, pour des raisons électoralistes, on se donne un aller simple vers l'austérité, compte tenu de ce qu'on a vécu. L'austérité de Philippe Couillard, elle est pas si elle est récente quand même.
Donc, un gouvernement PSPP baisserait pas les taxes,
non.
Baisserait pas les impôts.
Non. Puis on trouverait des solutions pour avoir une première ligne forte à travers les CLSC. On réformerait la rémunération des médecins. En éducation, on réinvestirait dans le système public. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer notre système. Mais c'est sûr que si tu enlèves des ressources, les chances que ça améliore le système sont pas très élevées.
OK, environnement, j'entends beaucoup de gens dire souvent, quand on parle de nécessité de faire une transition écologique, même si on tombait zéro carbone au Québec, on est un tout petit joueur sur la scène internationale.
Ouais, j'ai entendu souvent
pourquoi?
Ça aussi.
C'est un argument qui revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on ferait des sacrifices pendant que les autres n'en font pas? Ça servirait à rien.
Il y a deux raisons. Il y a une raison éthique de principe, à savoir que la plupart des changements... Moi, je suis assez vieux pour avoir vu des camions au plomb. Tu sais, la grosse boucane noire foncée.
Je me souviens de l'odeur.
L'odeur dégoûtante. Quand on voit les changements de technologie, souvent les pays qui sont plus riches et donc ont plus les moyens sont ceux qui initient. Puis on voit ensuite les autres pays dans le monde suivre. Éthiquement, on a le potentiel, de par notre situation hydroélectrique notamment, mais on a la richesse également pour faire les bonnes choses pour la viabilité de la planète. Éthiquement, on n'a pas le choix. Mais c'est également une opportunité de développer une expertise propre au Québec et ensuite de l'exporter. Économiquement, ça a du sens parce que tu développes... C'est sûr qu'il faut aller vers une nouvelle économie qui se débarrasse du pétrole. C'est juste une question de temps. Si tu es le premier à le faire, ben tu développes un avantage concurrentiel que tu peux ensuite, à travers des compagnies québécoises, exporter à l'étranger. Donc, ça peut être source de richesse si c'est fait intelligemment, puis on prend un avantage.
Je sais que vous êtes au Parti québécois contre la construction du troisième lien là, dans les, qui est cher à M. Legault, mais il y a aussi cette idée qui est poussée par des environnementalistes de ne plus construire de nouvelles routes. Êtes-vous d'accord avec ça?
Ben, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux...
Je parle pas de faire des réfections de routes, mais d'en construire des nouvelles, il y a des gens qui veulent un moratoire là-dessus. Êtes-vous d'accord avec ça?
Je pense qu'avant d'en construire une, en effet, faut se demander est-ce que ça fait partie d'une planification intelligente des transports. Quand vous regardez dans le cadre budgétaire qu'on a déposé, où va l'argent, c'est vraiment dans le fait de doubler les transports collectifs. Mais de là à dire dans aucun cas, là, compte tenu de la taille de notre territoire, en aucun cas, comme par exemple, il n'y a pas de pont à Tadoussac, puis ça isole complètement la côte nord. C'est écologiquement, c'est pas une bonne chose là, d'avoir un traversier qui pollue puis qui frappe potentiellement des bélugas ou d'autres. Il y aura des constructions, mais je pense qu'en effet, on devrait avoir un test. Est-ce qu'une nouvelle route est la chose intelligente à faire? Puis le plus souvent, la réponse va être non, parce que ça rajoute des voitures et donc ça rajoute de la congestion et de la pollution.
Que je vous amène sur un autre terrain, racisme systémique. Aujourd'hui, ça marque les 2 ans de la mort de Joyce Echaquan sous les insultes à l'hôpital de Joliette. On sait que la communauté atikamekw demande la reconnaissance du racisme systémique. On va vous écouter. Mettez les écouteurs. On va écouter un extrait d'un débat auquel vous participiez avec Mathieu Bock-Côté. C'était en 2016.
Ça n'a rien à voir avec le racisme systémique, qui, à mon avis, est un débat extrêmement légitime.
Deuxième extrait.
Et là, on a inventé ce mot systémique, non pas pour dire que tout le monde est raciste de manière systémique, mais bien dire que le système lui-même, sans qu'il n'y ait nécessairement des tensions, produit à sa face même des résultats inéquitables. Dans quel cas, ce qui est proposé, c'est d'en discuter.
Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans pour que vous changiez d'idée sur le racisme systémique? Ben,
merci d'avoir donné l'extrait au complet. Mm-hmm. Je l'apprécie parce que ça démontre que ce que je dis, c'est on devrait en discuter. C'était très nouveau à l'époque. J'ai fait ma maîtrise en Angleterre sur la discrimination systémique des femmes dans les cabinets d'avocats. Donc, c'est des termes que j'ai étudiés. J'ai publié là-dessus pour ceux qui s'intéressent à ce débat-là, là, mais je pense que l'expression racisme systémique, elle est inadéquate. On parle de racisme institutionnel au Parti québécois. J'ai tout publié, pourquoi je pense que c'est un terme, puis une façon d'approcher l'enjeu qui est beaucoup plus approprié.
C'est un peu jouer sur les mots, non?
Ben non, c'est...
Parce que ça reconnaît les mêmes effets, là.
Non, c'est que on peut pas juste blâmer le système. À chaque fois qu'on voit une inégalité de traitement, on peut pas juste blâmer un système en général et conclure automatiquement que c'est le racisme du système. Parce que là, on sait pas c'est quoi le système. Puis des fois, il y a des inégalités, mais c'est pas le fruit du racisme. Mais dans une institution, prenons un hôpital, là, puis nous, on demande en passant là, la sécurisation culturelle dans la loi, c'est-à-dire l'adaptation de l'hôpital aux spécificités linguistiques et culturelles des peuples autochtones. On l'a pas obtenu encore, mais on va finir par le faire. J'en suis confiant. Quand on parle d'institution, mais tu peux dire c'est l'hôpital. Puis là, on va examiner est-ce que dans cet hôpital-là, les règles, les façons de fonctionner sont problématiques sous l'angle de la discrimination.
Au débat de TVA, vous avez mis au défi Gabriel Nadeau-Dubois de prononcer le mot en N. Et je me demandais, vous répondez quoi aux Québécois qui sont heurtés par ce mot-là?
Moi, j'ai entendu tout le monde à la question de Pierre Bruno. Là, c'est la question de l'animateur. Mm-hmm. Je dois y répondre. J'ai entendu tout le monde dire « Ah, la liberté d'expression, c'est très important. On devrait être libre de nommer toutes les œuvres et de laisser toutes les idées circuler. » Donc, dans mon esprit, ça allait de soi de nommer le nom puisque la question a été posée sur le livre de M. Vallière. Mm. Et j'ai répondu et j'ai donné la parole à Gabriel Nadeau-Dubois en disant « Ton tour de répondre. » Et donc, il est maître de sa réponse. J'ai trouvé ça, pour le moins, étrange qu'il me blâme, moi, ou en tout cas qu'il sous-entende que je l'ai contraint à répondre, alors que lorsqu'on est en débat et que la question de l'animateur, elle est claire, on a chacun comme chef ou co-porte-parole d'un parti l'obligation de répondre comme il nous semble, nous semble.
Vous dites quoi aux Québécois qui n'aiment pas entendre ce mot-là? Puis vous et moi, étant blancs, on saura jamais c'est quoi de se faire traiter, par exemple, de ce mot-là.
Il y a un livre de Dany Laferrière qui a ce mot-là dans le titre.
Je comprends. Mais c'est aussi une insulte.
Il y a des principes sur la démocratie sur lesquels je veux me tenir debout. Nommer des livres, des idées.
Dans tous les contextes.
Utiliser. Il y a des questions de jugement situationnel. Là. Mais il y a bel et bien une mouvance idéologique qui voudrait retirer des mots, imposer des mots, dicter une idéologie. Et pour la démocratie, même quand je suis pas d'accord, puis des malaises, on en vit en politique, là, c'est le pire endroit pour sur le plan des malaises, parce que les journalistes, à juste titre, nous posent des questions, nous placent dans des situations inconfortables. Le confort n'est pas un critère pour empêcher des idées ou des œuvres de circuler dans une société, sauf évidemment s'il y a une intention de... C'est de la haine, là, mais le titre d'un livre, c'est pas de la haine. C'est un livre et qui, à fortiori, là, c'est plus intéressant, ça porte sur l'histoire des Québécois. Donc, si on n'est plus capable de nommer ça, ça marche pas, là.
Parlons d'éducation. Privée, pour ou contre?
Moins d'éducation privée. Redonner une chance au système public. Quand on parle d'un système à trois vitesses, là, c'est bel et bien ça qui se produit. Et quand on est dans l'environnement de la troisième vitesse, tant pour les professeurs que pour les élèves qui ont droit à une chance dans la vie, là. On trouve des ressources insuffisantes, beaucoup de cas plus difficiles dans la classe, donc c'est humainement impossible avec le peu de ressources. Donc, j'ai parlé beaucoup dans cette campagne-là de ressources autour du professeur, les psychologues, les orthopédagogues, mais les gens qui peuvent aider l'accompagnement des élèves. Mais c'est sûr que quand on a un système à trois étapes, là, puis que dépendamment t'es dans quel système, tout change.
Mais est-ce que vous aboliriez le privé?
Non, je pense pas qu'on va abolir complètement le privé, mais je pense que sur le plan du financement, il y a un réajustement à faire.
Sur combien de temps?
Graduel, mais quand même senti.
Êtes-vous allé au privé?
Oui, moi, au secondaire, je suis allé au privé. Puis pour autant, je suis vraiment, parce que je suis allé dans le système public danois, puis j'ai vu c'est quoi un système public où il y a une belle mixité, puis les ressources sont là. Et je pense que c'est pas juste. S'il y a une affaire dans la vie qu'on veut, c'est que quand on est jeune, on a des chances égal de faire ce qu'on voulait dans la vie. Je pense qu'un système public fort est nécessaire, indépendamment de mon parcours, ou peut-être encore plus en raison de mon parcours.
Nos hôpitaux sont en déroute, nos écoles sont en déroute. Ce sont des compétences totalement québécoises. Qu'est-ce que ça dit sur nous, Québécois, qu'on soit pas capable de bien gérer deux institutions?
C'est tellement fondamental comme question.
Dites-moi pas que c'est la faute d'Ottawa.
Je vais vous le dire parce que mais là s'il n'y a pas d'écoute par contre, laissez-moi.
Non, je vais vous écouter. Vous
aurez cette réaction là. Non, s'il vous plaît, vous aurez cette réaction là quand j'aurai fait ma phrase.
OK.
Regardez l'évolution des transferts en santé à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est radical. On n'a pas les mêmes sommes. Où vont ces sommes-là? Elles vont dans le dédoublement d'un paquet de choses qu'on fait déjà. Et c'est mathématique là, c'est une question de chiffres. Ça peut déplaire comme explication, mais c'est un des facteurs, à savoir que les retours de nos impôts qu'on envoie à Ottawa n'est plus du tout le même, mais a diminué à ce point qu'on travaille per capita dans des chiffres beaucoup plus bas. C'est un fait.
Ça, c'est la santé. Parfait. Oui. Nos écoles, pourquoi est-ce qu'on diplôme moins de jeunes que les Ontariens? Les Ontariens, ils ont les mêmes transferts sociaux.
Ça, c'est pas Ottawa.
Ça, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit sur nous?
C'est vraiment un enjeu. On sait que l'éducation est vraiment le facteur qui prédit le plus la prospérité d'une société. la santé des gens. On a eu une impulsion quand on parle de la Révolution tranquille, quand on pense aux gens qui ont conçu le système. On a vraiment eu une impulsion. Pourquoi cette impulsion-là, à un moment donné, de toute évidence, s'est arrêtée? Puis on a fait le choix comme société de laisser nos écoles vétustes. Là. 59 % de nos écoles sont en mauvais état.
Ça veut dire qu'on...
Pourquoi on a
ça
fait ce choix-là?
Ça veut dire que c'est pas une priorité dans le cœur des Québécois.
Mais pourtant, quand on parle aux gens, ils sont convaincus que c'est une priorité, mais clairement, ça n'a pas été une priorité budgétaire. Et le rôle du professeur aussi s'est fait dévaloriser. C'est inquiétant. Moi, je pense que quand tu confies ton enfant à quelqu'un qui est en charge de l'éducation, c'est un rôle qui est déterminant, important. Il y a vraiment une réflexion à faire sur la valorisation de ce rôle-là parce que ça détermine l'avenir de nos enfants qu'on envoie dans le système de l'école, là. Donc, j'ai pas de réponse précise, mais c'est un fait qu'on a eu une belle impulsion qui nous a permis un rattrapage au Québec. Puis à un moment donné, les choix, de toute évidence, sont pas suivis par rapport à une valeur qui, je crois pourtant, existe dans la population québécoise.
Bonne fin de campagne.
Bien, merci infiniment.
Merci d'être venu nous voir en studio. Merci. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois et aussi candidat pour le poste de député dans la circonscription de Camille Lorrain.
Patrick Lagacé, en accéléré.
L'hiver dernier, il y a des convois de la liberté, entre guillemets, qui ont pris possession du centre-ville d'Ottawa et d'autres villes frontalières avec les États-Unis, un peu partout au Canada. Ben, le gouvernement fédéral a remis 1200 pages de documents au comité parlementaire chargé, à la commission chargée d'enquêter sur le fait est-ce que c'était pertinent ou non de déclencher la loi sur les mesures d'urgence. Boris Proulx est journaliste au quotidien Le Devoir, couvre les actualités parlementaires à Ottawa. Il est au bout du fil. Salut, Boris.
Salut, Patrick.
Boris, d'abord, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ces 1200 pages de documents?
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, finalement? Là, toutes sortes de choses. 1200 pages, ça fait un peu long à lire. Ça a été quand même des grosses soirées. Donc, je peux même pas prétendre que j'ai tout débusqué, peut-être, ce qu'il y a là-dedans encore. Mais vite comme ça, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a eu des incidents. Il y a eu des petits convois québécois qui sont complètement passés sous le radar, en fait, comme notamment un convoi prévu au poste frontalier de Lacolle au Québec et un autre convoi déjoué à l'aéroport international Montréal-Trudeau. Ça, c'était le 10 février. Et on parle pas, Patrick, là, de très grands événements. Là, on parle de documentation faite par des agents fédéraux sur, par exemple, là, sur la manifestation prévue à Saint-Bernard-de-Lacolle. C'était un groupe Facebook où il y avait 6 participants et 11 personnes intéressées. Donc, les agents ont répertorié, ont catalogué tout ça. Et à Montréal-Trudeau, immédiatement après avoir détecté un convoi, on a mis, si on veut, l'aéroport en état d'urgence, en état d'alerte là, le 10 février dernier. Et finalement, le SPVM s'est déplacé sur place, a arrêté 3 véhicules. C'est terminé là. C'était pas pire que ça. Mais c'est des micro-événements, si on veut, mais qui montrent que le gouvernement fédéral suivait d'assez près, finalement, ce mouvement-là et dans ses moindres ramifications sur Internet.
Quand on décortique ces documents-là, Boris Proulx, est-ce qu'on comprend mieux ou, au contraire, on comprend pas pourquoi le gouvernement fédéral a évoqué la loi sur les mesures d'urgence?
Excellente question. On comprend un petit peu quand même l'état d'esprit du gouvernement. C'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de choses qui ont été publiées par toutes sortes d'institutions et les institutions sont comme pas nécessairement égales non plus dans ce qu'elles ont eu comme implication dans le convoi de la liberté. Je vous donne un exemple, SCRS qui sont les espions canadiens, là, le Service canadien de renseignement et de sécurité, dit noir sur blanc que c'est pas sa job finalement de regarder les manifestations légales, les protestations politiques sur tel ou tel sujet, que sa mission, c'est uniquement de surveiller s'il y a de l'ingérence étrangère et s'il y a des individus radicalisés qui vont faire un acte de violence. Et le SRS a déterminé qu'il n'y avait eu ni l'un ni l'autre. Donc, ça s'arrête pas mal là pour la documentation du SRS. Par contre, on regarde les douaniers, donc l'Agence des services frontaliers du Canada, Transport Canada, la GRC, ces institutions-là se sont pas gêné finalement pour regarder sur les pages Facebook, pour essayer de venir voir un petit peu le convoi de la liberté comme nous on faisait les journalistes, mais on voit qu'ils sont allés très très en détail, les agents fédéraux. Il reste à voir maintenant, est-ce que ça a été justifié ou non? Il y a quand même un certain nombre de questions qui restent en suspens. Là, j'en ai une en tête. La GRC avait noté dans son rapport quotidien au sous-ministre, il y a possibilité que les manifestants à Ottawa commencent à s'armer. Donc, c'est quand même alarmant. Le 14 février, je rappelle que c'est la date où le premier ministre Justin Trudeau a invoqué ces mesures d'urgence. Donc, finalement, on n'a jamais su s'il y avait eu ou non des armes trouvées. La police ne veut pas nous le dire encore jusqu'à ce jour. Mais ça nous met en tout cas un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait le gouvernement fédéral, c'est-à-dire en documentant tout ça dans ses moindres détails.
Dans la plus pure tradition canadienne, et on pourrait même dire quasiment un peu partout au pays, là, même dans les gouverneurs provinciaux, ben ces documents-là, ces 1200 pages de documents-là sont caviardés. Il y a beaucoup de bouts, de passages qu'on ne peut pas lire, là, qui sont recouverts de noir. Est-ce que c'est une bonne partie des 1200 pages?
Oui, c'est une bonne partie des 1200 pages. Encore une fois, très inégale par les institutions. Il y a des bouts de phrases. Donc, on s'entend quand c'est plus sensible, quand c'est en lien avec des enquêtes en cours, on met tout ça en noir. Il y a rien qui va transparaître de ça. Mais, outre le caviardage, on s'est rendu compte même qu'il y a des documents qui manquent. 1200 pages, c'était pas... C'est pas tout. Il y a aussi toutes les discussions que les ministres ont eues entre eux, qu'on appelle les discussions du cabinet, là, qui ont mené à cette fameuse invocation des mesures d'urgence. C'est absent des 1200 pages. C'est quelque chose que demandait le comité parlementaire. Et on s'est rendu compte que il y a certaines de ces informations-là, certains de ces documents-là, qui ont au contraire été déposés en cours dans une cause là cet été qui a été entendue en cour fédérale dans une poursuite là d'un groupe des droits de défense des droits constitutionnels. Ben le gouvernement dépose ça d'un côté devant le tribunal, mais ne le donne pas aux parlementaires qui sont responsable de surveiller. Donc, on va suivre ça dans la prochaine semaine, mais je sens qu'à Ottawa, ça va créer des petites tensions.
OK. En terminant, est-ce qu'on sait, quand on parcourt ces 1200 pages de documents, Boris Proulx, est-ce qu'on comprend mieux pourquoi la police d'Ottawa a si mal fait son travail, a pas vu venir le bordel qui s'en venait avec tous ces camions qui convergeaient vers Ottawa?
Ben, c'est la question, Patrick, vraiment, parce que la police d'Ottawa officiellement nous dit on a été pris par surprise finalement que on s'attendait pas à ce qu'il vienne autant de monde dès le départ le fin janvier 2022. On se doutait pas des intentions qu'on peut dire radicales là, d'occuper la capitale fédérale jusqu'à ce que les mesures sanitaires soient levées. C'est une justification un petit peu bancale quand on constate l'étendue du renseignement que le gouvernement fédéral avait sur ce mouvement-là. Ça fait naître toutes sortes de questions. Est-ce que le renseignement est correctement partagé d'un ministère à l'autre entre le gouvernement fédéral, la police locale? Ça, c'est vraiment un point d'interrogation. Il y a différents experts là qui, au courant de l'année, nous ont dit, c'est peut-être la clé de voûte, si on veut, du problème, ou à savoir comment ça se fait que le convoi de la liberté a eu une telle longévité, qui est resté aussi longtemps dans les rues d'Ottawa. Ben, c'est peut-être parce que ça se parle pas beaucoup, finalement, entre le gouvernement et la police, et ça a laissé là, toute la marge de manœuvre aux manifestants ici pour duper là, les forces policières.
Merci d'avoir pris le temps, Boris. Bonne journée.
Un grand plaisir. Merci, Patrick.
À la prochaine. Boris Proulx, qui est correspondant parlementaire à Ottawa pour le journal Le Devoir. OK, court commentaire là, sur Jean Boulay, qui est ministre du Travail, de l'Immigration. M. Boulay s'est mis le pied dans la bouche jusqu'au tendon d'Achille dans un débat à Radio-Canada-Mauricie qui s'est tenu la semaine passée, mais ses propos ont refait surface aujourd'hui, là, une semaine plus tard. Ça concerne l'immigration. On va écouter ce qu'a dit M. Boulay.
80% des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.
C'est complètement fou. sur adhérer aux valeurs de la société québécoise, de la communauté québécoise. Écoutez, je pense pas que ce soit vrai. On peut s'obstiner là-dessus. On est dans le senti. Mais il y a des statistiques qui existent pour ce qui est de la langue parlée par les immigrants. Il y a des statistiques qui existent pour ce qui est de leur taux d'activité, du nombre d'entre eux qui travaillent bel et bien. Et, ben écoutez, c'est pas mêlant. Le taux d'emploi des immigrants établis à Montréal était de 62,2% au recensement de 2016. Donc, 62,2%. Les gens qui sont nés au Canada, le taux d'emploi à Montréal est de 63,3%. Vous voyez, on est dans la marge d'erreur statistique. Les immigrants travaillent autant que les gens qui sont nés ici, en tout cas pour ceux qui sont à Montréal. Et ça, ce sont des données, je le précise, de Statistique Canada 2016. Pour ce qui est du recensement de 2021, on n'a pas fini de décortiquer les statistiques encore, les données. 80% des immigrants qui sont établis au Québec seraient capables aussi, toujours selon ces statistiques, de tenir une conversation en français. Donc, M. Boulay s'est excusé. Il a dit que ça reflétait pas ce qu'il pensait. Écoutez, vous me permettrez de douter de ça. Quand on y va sur une statistique aussi précise que 80%, c'est probablement ce que vous pensiez. Ce que vous pensiez, si on est pour parler de marge d'erreur, ben probablement que ce que vous pensez, c'est que la majorité des immigrants parlent pas français, la majorité des immigrants travaillent pas. Et si on est pour être encore dans les statistiques, écoutez, il y a 6% des immigrants de 25 à 54 ans qui sont au chômage. C'est pas beaucoup de monde. Donc, le PM a rabroué M. Boulay. Il a dit que M. Boulay s'était disqualifié d'être reconduit éventuellement au poste de ministre de l'Immigration. Le PM a été parler d'une grave erreur de jugement de son ministre. Et écoutez, je pense que c'est la moindre des choses que de le reconnaître. Et ce qui est particulièrement, je dirais, consternant, c'est que M. Boulay, c'est un politicien d'expérience. C'est pas un candidat poteau qui a été recruté par un tiers parti pour que le dit tiers parti ait des candidats dans tous les comtés du Québec. Politicien d'expérience, ministre depuis 4 ans, ministre du Travail et de l'Immigration, en un claquement de doigts, Jean Boulay peut avoir accès aux statistiques les plus poussées, les plus fines sur l'immigration au Québec, mais il a choisi de lancer des chiffres comme ça au hasard. C'est une erreur factuelle, d'une part, puis d'autre part, c'est encore une fois, à la CAQ, il faut le constater, il y a une sorte de mouvance. C'est de voir l'immigration uniquement comme un problème, juste comme un problème, quitte à inventer des faits pour justifier de voir ça comme un problème. Et je dois dire que c'est quand même ironique de voir que le PM lui-même, là, qui a bien fait de rabrouer M. Boulay, quand même ironique de voir que le PM lui-même a erré factuellement il y a quelques semaines avec son lien entre l'immigration et la violence, pour lequel il n'a offert aucune donnée afin de justifier cette affirmation. Affirmation pour laquelle, je le souligne, il s'est excusé.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Valérie.
Salut Patrick.
Donc Joe Biden s'est exprimé aujourd'hui lors d'une conférence sur l'alimentation, mais ce sont pas ses déclarations sur la malbouffe ou encore la faim qui ont fait réagir ses détracteurs aujourd'hui.
Non, parce que pourtant c'est la première fois qu'on avait une conférence sur l'alimentation depuis la présidence Nixon. On voulait annoncer qu'on allait éradiquer la faim aux États-Unis d'ici 2030. Plein de belles promesses, parler de la malbouffe. On était en partenariat avec Danone, Burger King, Subway pour qu'on ait des offres alimentaires plus santé dans les années à venir. Un engagement sans rien d'écrit. Mais quand même, un engagement qui était...
Tu sais, moi, quand j'entends parler de ça, les analogies avec le fast-food,
écoute,
ça me fâche.
Ben, là, tu vas pouvoir rire, parce que oui. Biden va sûrement te faire rire dans un instant avec sa déclaration. Parce que Joe Biden, donc, remerciait, pour mettre en contexte, avant que je vous fasse entendre, le président américain, remerciait les gens du côté républicain aussi qui avaient participé à élaborer cette conférence. Alors, il remerciait l'effort. Et à un certain moment, il cherchait une personne en particulier. Je vous expliquer pourquoi c'est drôle juste après avoir entendu Biden.
And I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here to help make this a reality.
Donc il dit ben écoutez, je voudrais remercier cet effort transpartisan, oui. Là, il salue des gens de tous les partis, oui. Si j'ai bien compris, et Jackie, Il cherche Jackie. C'est qui, Jackie?
Il dit, Jackie, es-tu là? Où est Jackie? Je ne sais pas, elle devait être ici. Et le problème, c'est que cet élu de l'Indiana est décédé au mois d'août avec deux autres personnes de son équipe.
Ça, c'est comme, c'est gênant, hein. C'est... Je me suis, Benoît Charrette avait, déclarer oui. quelqu'un mort oui. dans une salle oui. qui en fait était dans la salle.
Il était ressuscité.
Je suis vivant.
Oui. Je pense que c'est le patron de Nuit d'Afrique, ouais. je me trompe pas. Là.
C'est le gala du Nest.
Oui, parfait. Attends. Oui. La personne est morte.
Elle est décédée. En plus, Biden avait offert ses condoléances. Il y avait vraiment une déclaration officielle. Et en plus de ça, il y a une vidéo hommage avant même sa déclaration. Alors, disons, pour les gens qui se disent que Biden, au niveau cognitif, il est quand même, il ne s'aide pas avec cette déclaration.
C'est peut-être pas entièrement faux.
C'est ça.
Mais même dans le ton, vous avez remarqué que ça va lentement. Hein? C'est ça.
Ça a été repris cette déclaration.
Évidemment, les opposants républicains président ont dû s'en donner à cœur joie. Qu'est-ce que la Maison-Blanche dit en guise de défense?
Ben oui, et les journalistes de dire, comment expliquez-vous ça? Parce que les journalistes sont dans, pas les journalistes, mais la secrétaire de presse est un peu dans le spin.
Man, woman, camera.
Oui.
Ce que Trump avait dit pour dire qu'il était cognitivement très correct.
Écoute, on préfère passer un test peut-être à l'ancien président, l'actuel, une compétition géopardie ou
génie en herbe. Je pense qu'ils sont dus pour un président de moins de 60 ans.
Écoute, on ne sait pas pourquoi, mais l'excuse de la Maison-Blanche, parce que la Maison-Blanche, quand Biden fait une gaffe, parce qu'au-delà de se tromper que quelqu'un est en vie qui est mort, il fait aussi des gaffes. Des fois, il parle un petit peu trop. La Maison-Blanche est toujours en damage control, comme on dit en bon français.
C'est pas toi qui donnes la main quand il arrive dans un pays. Puis des affaires de même. Là.
Mais là, c'est pas juste on se trompe de nom. Là. C'est on cherche la personne qui est décédée il y a un mois. Fait que tu sais, ça allait pas très, très bien. Puis là, finalement, ce que la Maison-Blanche a dit, c'est qu'elle était dans ses pensées, que sa famille, d'ailleurs, allait être là pour être honorée. La famille de la personne allait être honorée à la Maison-Blanche vendredi. Donc, c'est quelque chose qui était dans l'actualité, dans l'agenda de M. Biden, que vendredi, on va les recevoir pour signer une espèce... Mais c'était leur excuse, qui était dans ses pensées. Et là, il y a un journaliste qui a posé la question suivante en faisant référence à John Lennon, si je ne me trompe pas. On peut écouter l'extrait.
Unusual scenario there.
Karine, I have John Lennon top of mind just about every day, but I'm not looking around for him anywhere.
When you sign a bill for John Lennon, Lennon has president, then we can have this conversation. Okay, go ahead. Go ahead.
Oui,
go ahead.
OK, traduis-nous ça.
Oui, alors, il dit, après, le journaliste dit, c'est beau tout ça de dire que vous avez quelqu'un, il l'avait en tête, mais dis-moi, je pense à John Lennon à tous les jours, mais je ne suis pas en train de saluer, de chercher John Lennon lorsque j'ai une déclaration. Et Karine Jean-Pierre, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche, de répondre, mais lorsque vous serez président puis que vous allez faire un projet de loi avec John Lennon, vous pourrez lui faire référence, c'est si ça. Vous voulez. Je ne sais
pas. On est dans le mieux.
Il y a les codes nucléaires, hein?
Oui.
M. Biden?
Ouais, okay. Mais ça. Il y en a plein d'autres qui l'ont. Hein. De l'autre bord aussi, je suis pas drôle.
Oui, c'est...
De tous les bords, je te dis.
Il y a peut-être des codes nucléaires dans des boîtes avec des journaux puis des vêtements aussi.
Faut que pensez pas à ça à la maison, vous dormirez pas.
OK, l'ambassade américaine en Russie a demandé à ses ressortissants de quitter immédiatement le pays parce qu'il y a cette crainte que certains soient enrôlés de force dans l'armée russe.
Oui, parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir la conscription, qu'on oblige les hommes vraiment à aller au front en Ukraine parce qu'on manque de gens. Il y a des militaires russes qui sont morts par milliers, même si on veut cacher certaines informations. Donc, il y a tout ça qui se passe. Et là, ce qu'on dit, c'est que même si vous avez la double citoyenneté, ce qu'ils pensent, c'est que le gouvernement de Poutine ne va pas la reconnaître. Donc, si tu es un Américain, mais qu'il y a une citoyenneté russe aussi et que tu es sur le territoire de la Russie, ben, si tu es obligé d'aller au front, si tu as un passé militaire, ben, c'est drôle, on va plus reconnaître ton passeport et tu vas devoir aller te battre.
Tu sais qu'il y a des informations qui circulent à l'effet que des Ukrainiens capturés pourraient devoir se battre contre l'armée ukrainienne. J'ai vu passer ça, là, ouais. Mais là, on avertit.
En même temps, si tu donnes des fusils à des anciens Ukrainiens pour aller se battre, il y a quand même des maudites bonnes chances qu'ils se retournent de bord.
Ça dépend où tu es sur le terrain de bataille.
Ouais, oui, je sais bien. Là.
Mais l'ambassade américaine a cette crainte-là que des Américains puissent être conscrits.
Oui, et qu'on ait plus d'aide consulaire, qu'à un certain moment, on ne puisse pas quitter le pays carrément en disant, et c'est ce qu'ils pensent, qu'on va fermer les frontières parce qu'il y a tellement d'hommes qui quittent la Russie par peur d'être obligés d'aller se battre. Qu'on a mis des militaires à des postes frontaliers pour vérifier si on était sur la fameuse liste là, de gens qui sont obligés. Une liste qui semble de plus en plus large. Mm-hmm. Au début, si on avait trois enfants et plus, par exemple, on n'était pas sur la liste. Si on avait, il fallait avoir un passé militaire. Finalement, on est plus laxiste, disons, dans les mesures. Et si on a les territoires annexés à la suite des référendums, elle en parlait, Valérie Leboeuf, il y a un instant, justement, on va avoir besoin de plus de militaires pour défendre ces territoires-là. Alors, peut-être qu'on pourrait aller avec des citoyens américains.
Parle-nous de l'indice Waffle House. House, ça, c'est une chaîne de restaurants, oui, qui font des crêpes. C'est utilisé par les autorités américaines lors de catastrophes naturelles, comme c'est le cas présentement avec l'ouragan Ian.
Et ça va vous sembler un insolite, mais c'est vrai. C'est vraiment la FEMA, donc l'agence qui gère toutes les catastrophes naturelles aux États-Unis, utilise ça entre autres dans son calcul. Parce que Waffle House, c'est ouvert 24 heures sur 24, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe si c'est une journée fériée ou autre. Et lorsqu'on décide, c'est vraiment informel, là, mais c'est utilisé, lorsque Waffle House est au niveau rouge, ils ont vraiment un indice. Au niveau rouge, qu'on ferme, il n'y a pas de menu, le restaurant est complètement fermé, c'est que le niveau de dangerosité de la tempête est élevé. C'est ça semble, ça je vous l'ai dit, ça, okay, semble un insolite.
Fait que le restaurant de crêpes, c'est un baromètre,
oui,
du niveau de dangerosité de la région.
Et de combien de temps ça va durer? Si t'es au jaune, c'est qu'on pense qu'il va y avoir des pertes d'électricité, le menu va être réduit, on va peut-être manquer de nourriture, mais on est quand même ouvert. Si c'est au vert, ben là, écoute, c'est pas si grave que ça. On va juste, comme on dit, brace yourself, ça va passer. On va passer au travers. Et pourquoi c'est les Waffle House? Il y en a 2000 environ dans le sud des États-Unis, des endroits qui sont touchés par les catastrophes naturelles, par les ouragans. Il y en a 100, entre autres, dans la région, justement, en Floride. Et là, on est au rouge, donc l'alerte est au rouge. Et c'est ce qui indiquait aux gens dans les dernières heures que finalement, ça allait être dangereux.
Et chronique culinaire, moi, je suis capable d'en prendre, là, de la bouffe. C'est pas mangeable.
Je suis jamais allée au Waffle House.
Faut que t'ailles manger là une fois dans ta vie. C'est terrible.
Ben,
Je
m'engage. Je ferai deux voyages en Floride. Comment dans
ça
la
peut être pas
année,
bon, les crêpes?
Ben, c'est ça le affaire. C'est pas leur force, les crêpes. C'est ça qui est fascinant.
C'est pas du vrai sirop, en plus.
C'est comme du produit, là, qu'ils mettent sur une plaque. C'est comme le McDo des pauvres du déjeuner, mais c'est parce que ça a pas d'allure, là.
C'est meilleur que IHOP ou?
Non. Je vous dis, c'est infect. C'est vraiment, vraiment pas bon.
Mais je vais aller me sacrifier lors de mon prochain voyage.
Je peux le dire ici parce qu'il y en a pas au Québec, là.
Mais attends, on va peut-être ouvrir une. Non,
ouvrez pas ça. Écoute, puis je te dis, moi, j'aime ça, le trash, là. Fait que, regarde.
Valérie, tu m'as envoyé une vidéo de requins, là, qui ont été vus nageant dans les eaux, qui ont envahi Fort Myers. J'ai pas encore trouvé de confirmation officielle que c'était le cas. Il semble.
Mais.
Écoute, l'Internet est divisé.
Mais, la personne qui a pris la vidéo a mis son crédit. C'est vraiment un journaliste, quelqu'un qui prend des images. Alors, j'ai quand même fouillé, fait mes recherches tantôt.
Tu as fait tes recherches?
J'ai fait mes recherches.
Cette phrase-là me fait peur depuis quelques années.
Les gens ne voient pas les guillemets en ce moment aussi que j'essaie d'utiliser en studio. Mais ça semblait vrai. Pour la première fois, il y a une journaliste qui a écrit, écoute, après toutes ces années à dire que c'était des fausses nouvelles, les requins, il y a toujours eu ces espèces de vidéos virales. Elle a dit, pour la première fois, je crois qu'il y a bel et bien eu un requin. Peut-être un requin de rivière. Là. Il y en a qui disaient, c'est pas nécessairement le grand requin
pas
blanc.
Jazz, là.
C'est ça, Jazz n'est pas nécessairement Fort Myers. Mais il y a des alertes pour des requins, des alligators aussi en Floride, parce que lorsqu'il y a un ouragan comme ça, la montée du niveau de l'eau, un alligator, c'est pas non plus quelque chose qu'on a.
Là, je vais me rétracter juste un peu, parce que j'ai dit comme une ânerie, ou du moins, je parlais des alligators là, qui pouvaient vivre dans des égouts, ça c'est déjà vu. Je me rétracte sur l'histoire de la toilette. J'ai jamais réussi à trouver une source, fait que c'est pas vrai. Là. Patrick, je te l'accorde. Okay, c'est correct. Je voulais absolument avoir un temps dans l'émission pour pouvoir le dire.
J'ai trouvé, je t'ai donné une poignée sans le savoir.
Merci,
et moi, je pense que le bon Dieu essaie de nous dire quelque chose.
Que ça va pas
quand
bien.
Les requins sont rendus dans les rues américaines et les crocodiles ne peuvent plus aller chez Waffle House.
Oui.
Et les gens nous écrivent, oui, waffles, c'est pas des crêpes, ce sont des gaufres.
Oui, c'est gaufres.
Et ça a pas d'importance. C'est la même scrap.
Ah, j'ai dit des crêpes.
Oui.
Ah.
Les gaufres, c'est en Belgique. Et ils sont bonnes. Les gaufres américaines. Ego, c'est chic comparé à ce que tu manges là.
Ben là.
T'as dit, c'est frais.
Je te dis, je veux y aller, moi, au contraire. Ça me
dans
donne le goût.
Tous les États-Unis, tu me dis qu'il y a pas une bonne gaufre.
Non, c'est pas ça que je vais te dire. Je vais parler de Waffle House. Mais Waffle House, t'en essayes un, t'essayes toutes.
Oui,
là, c'est une chance.
Parce que leur crêpe aussi, là, c'est des pancakes. C'est l'espèce de truc pâteux et épais. Là. Okay. On n'est pas dans la petite crêpe française de chez Cora.
Merci, Valérie. On te retrouvera pas cette semaine. Vendredi, t'es là avec
demain,
nous d'habitude.
Vous vouliez m'accueillir.
Peut-être. On verra. Là, mais t'es pas là vendredi pour cause de congé personnel.
J'ai un mariage vendredi.
Tu te maries? Félicitations.
Oui, hein. Part des rumeurs.
On n'est pas invité.
Non, vous n'êtes pas invité.
On savait pas ça. On n'a pas vu ça dans le monde de stars que tu avais un monsieur.
Non.
Chaque fois qu'on te voit, t'es avec la mairesse de Longueuil.
C'est vrai.
Tu ne diras pas que.
Mais là, j'annonce pas notre mariage.
On va commencer à se poser des questions.
Hey, ça serait un triple scoop.
C'est elle qui célèbre le mariage.
Ah!
Oh! Tout est dans toi.
Merci, Valérie. 18h16.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.